CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG où aujourd'hui on vous proposera une conférence au programme de ce samedi à Caussade. C'est la prochaine des conférences du cycle de l'Université populaire de Caussade autour du personnage de Pierre-Paul Riquet, celui qui a conçu le canal du Midi sous le règne de Louis XIV. On vous dira tout dans ce MAG après, puisqu'on est mardi, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques où on retrouve Akelus, Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause architecture labyrinthique et musique de l'âme. Avec, pour commencer, le premier tome de l'intégrale des bandes dessinées Les Cités Obscures de Schuiten et Peters. Un ensemble de bandes dessinées où chaque tome raconte la perte de l'humanité face à une architecture vivante qui soumet l'humain. Soit par petite excroissance qui se développe toute seule, quand un cube de 30 cm de côté se dédouble tous les jours sans s'arrêter, qui grandit sans fin jusqu'à s'imposer aux habitants qui ne peuvent que s'y soumettre. Soit par une architecture qui les noie sous son volume écrasant, étouffant dans ses tours infinies ou ses sous-sols interminables. Dans ces villes qui se meuvent d'elles-mêmes, qui font disparaître les frontières et l'horizon, et qui se jouent des humains désespérément perdus face à ces dédales infinis. On y retrouve des archivistes qui tentent de mesurer, compter ces aberrations, des explorateurs qui disparaissent, s'évanouissent, des constructeurs, réparateurs, découvreurs, des Thésées sans Ariane, qui tous s'effacent dans ces anémolies de pierre, de métal, de câbles. Ce n'est pas grand ni même gigantesque, c'est exorbitant, cyclopéen et tentaculaire. Des endroits où l'espace déforme le temps, ça pousse au vice, à une folie encore plus grande que celle qui a amené les hommes à construire toujours plus gros, plus grand, plus loin. Ici, le dessin géométrique écrasant, parfois en noir et blanc, parfois à couleur pastel, exprime avec une colossale puissance la chute et la dissolution de l'être humain sous ses inconstances et inconcevables charpentes. Les scénarios, toujours plus intenses, nous emmènent à travers des quêtes éternelles dans les méandres catacombesques à la recherche de la sortie de secours de l'infini. N'hésitez pas à aller vous perdre, laissez-vous absorber dans ces histoires obscures qui reflètent la démence de cette volonté humaine du toujours plus. Après avoir sombré, je vous propose de vous élever vers du plus spirituel avec un petit film documentaire sur la musique de l'âme. Le film Soul Kids, qui nous présente la Stax Music Academy de Memphis, Tennessee, ville américaine des plus pauvres, dans laquelle cette école de musique extrascolaire et gratuite, héritière du label légendaire des Sixties qui accompagna la lutte pour les droits civiques, nous fait rencontrer une jeunesse qui a soif d'apprendre, de comprendre son histoire. Histoire noire américaine à travers les plus grands tubes de la soul. Un film modeste qui traverse les luttes sociales, qui aide à déconstruire un racisme constant et des préjugés omniprésents, qui assaille de tous les côtés cette jeunesse désabusée, avec des professeurs qui rappellent, et là je cite, « Garçons et filles, on a créé une image de vous, ne la croyez pas, ne l'incarnez pas. » Une image contre-productive véhiculée par une partie du rap, entre autres. Le réalisateur, Hugo Sobelman, nous fait réfléchir avec une douceur rafraîchissante et fructueuse le tout en musique. Comment reconstruire un monde qui juge avant de voir, un monde qui préjuge avant de savoir. Mais je vous laisse le regarder, vous en jugerez par vous-même. Les Cités Obscures de Schuiten et Peters et Soul Kids de Hugo Sobelman sont à retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Bon visionnage, bonne lecture et à bientôt.
Et... merci Victor pour cette chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques à retrouver tous les mardis et en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr.
Long are the days when you're turning away from the reasons you strove. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore. Sleeve, it's hard to believe, but it's yours.
CFM Quélus, le mag.
De retour dans ce mag, on vous propose une conférence. Conférence initiée par l'Université Populaire de Caussade. Ce sera pour ce samedi 15 novembre au Récollé. Une conférence proposée autour de Pierre-Paul Riquet. La gabelle du sel et la genèse du canal du Midi. Une conférence racontée par Gérard Crevon. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes passionnée d'histoire, auteur du livre Pierre-Paul Riquet, l'audace et la ténacité, qui est paru aux éditions Vérone en 2024. Alors Pierre-Paul Riquet est celui qui fera le lien entre la gabelle du sel et le canal du Midi. De quelle façon? Qui est-il Pierre-Paul Riquet?
Bien, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Pierre-Paul Riquet s'est intéressé au canal, il avait déjà 53 ans. Et il avait derrière lui toute une carrière dans le commerce du sel, c'est-à-dire la gabelle. La gabelle, c'était au sens strict l'impôt que levait le roi sur le sel, mais le fermier des gabelles, il ne faut pas le considérer comme un percepteur chez qui on va verser de l'argent. Non, c'était un marchand en gros qui, d'une part, achetait le sel chez les producteurs, les salins, les marais salants, chez les possesseurs de marais salants, possesseurs et exploitants de marais salants, et qu'il l'amenait par charroi, pour ce qui concerne le Haut-Languedoc, jusqu'à des établissements, des entrepôts en gros, à partir duquel était fait la distribution, soit sous grosse quantité pour les gros acheteurs, soit tout simplement par des marchands de détail qui allaient sur les marchés ou qui avaient une échoppe dans les petites villes. Donc Riquet, la première partie de sa vie, c'est un commerçant de sel en gros.
Et... Alors, on n'a pas situé, on est là, sous le règne de Louis XIV.
Ah, voilà, et c'est ce qu'il fallait dire. Et même, son travail a commencé dès le règne de Louis XIII. Sa carrière dans le commerce du sel s'étend du règne de Louis XIII, toute la minorité de Louis XIV... Et il fait une proposition de créer ce fameux canal de Languedoc au début du règne personnel, du gouvernement personnel de Louis XIV.
Qui, lui, s'était déjà posé la question d'initier un canal qui rejoindrait ces deux rives de la France. Il y avait déjà eu plein d'autres propositions pour la création d'un canal.
Alors, ça faisait 150 ans. Pratiquement depuis François Ier, qu'on envisageait des solutions. On avait reconnu le trajet, qui sera adopté finalement. On avait reconnu l'endroit qui posait un problème, c'est le seuil de Naurouze, parce que, en fait, ce canal à créer s'étendait sur deux bassins versants. À l'ouest du seuil de Naurouze, on va vers l'océan, et à l'est, on va vers la Méditerranée. Donc, il y avait un point haut à franchir entre ces deux bassins. Et c'est là qu'était le problème, parce que si on voulait le franchir par un canal, il fallait obligatoirement amener de l'eau à cet endroit-là. Et c'est tout le mérite de Riquet d'avoir trouvé le moyen génial de fournir de l'eau à cet endroit-là en la prenant dans la montagne noire. Avant lui, on avait imaginé d'autres solutions, soit en la prenant, enfin la plupart du temps en la prenant dans les Pyrénées, soit du côté de l'Est, par exemple à partir de l'Aude, soit du côté de l'ouest, par exemple à partir de l'Ariège, voire à partir de la Garonne. Mais Riquet a trouvé la solution la plus simple, bien que c'était pas d'une simplicité enfantine quand même, mais enfin, c'est celle qui a réussi.
D'autant que ce monsieur Riquet, on le disait, s'occupait de la gabelle du sel. Il était commerçant, il n'était pas du tout architecte ou voilà, hydrologue. Donc il est allé voir monsieur Louis XIV et il lui a dit j'ai trouvé une solution pour vous. Et on l'a écouté.
Alors, il a adressé sa proposition à Colbert. Colbert, qui était le grand financier de Louis XIV, dès que celui-ci a commencé à régner personnellement. Et Colbert, il avait beaucoup d'idées sur le plan économique. Il voulait redresser la France, lui donner des moyens de tenir un rang un peu plus important que ce qui s'était passé jusque-là. Et donc il avait l'idée que si on voulait s'enrichir, eh bien, il fallait favoriser le commerce. Et pour favoriser le commerce, il fallait favoriser les moyens de déplacement. Et en particulier la navigation maritime, mais aussi la navigation sur les rivières. Et pourquoi pas créer des rivières artificielles, c'est-à-dire les canaux de navigation.
Est-ce qu'on a des traces, encore des archives, par exemple dans la conférence que vous allez proposer là ce samedi à Caussade, est-ce que vous allez nous montrer des traces de ce qui a été proposé, donc à Colbert en l'occurrence, par Pierre-Paul Riquet, qui, on le redit, avait déjà 57 ans révolu, une carrière dans le commerce qui n'a encore une fois rien à voir.
Oui, 57 ans, c'est quand il a commencé le canal, c'est-à-dire quand la décision de le faire a été prise par Louis XIV. Mais quand il a fait sa proposition à Colbert, quand il a écrit à Colbert, c'était quasiment l'année suivant la prise de pouvoir de Louis XIV, hein. C'était en 1662. Et là, on a une copie d'époque de la lettre qu'il a adressée à Colbert. Et cette copie-là, elle est conservée aux archives du canal du Midi, à Toulouse.
Il a de l'aplomb, ce monsieur Riquet ?
Pardon ?
Il a de l'aplomb.
Ah oui, mais bon, il ne l'a pas fait tout seul. C'est un proche de Colbert, c'était l'archevêque de Toulouse. Bon, il faut dire qu'à l'époque, depuis François Ier, tous les évêques et les archevêques, et puis même les abbés des grands monastères, étaient désignés par le roi. Hein ? Le roi disait qui il voulait comme évêque à tel d'autres diocèses. Et le pape ne donnait que son aval et faisait la nomination officielle, c'est tout. Donc à cette époque-là, les évêques, les archevêques étaient aussi politiques que religieux. Et donc c'est l'archevêque de Toulouse que Louis XIV venait de nommer, qui a pris contact avec Riquet et qui s'est fait expliquer ce que Riquet voulait faire, quelle solution il avait adoptée, se les a même fait montrer succinctement sur le terrain et a donné l'ordre à Riquet d'écrire à Colbert carrément. Et il a suivi l'affaire parce qu'on a des lettres dans lesquelles il dit à Colbert, j'espère que vous avez reçu la lettre que devait vous faire le sieur Riquet. Vous voyez, il ne s'est pas contenté de donner un ordre, il a appuyé Riquet auprès de Colbert.
Le sujet le titre de votre livre, c'est Pierre-Paul Riquet, l'audace et la ténacité. La conférence que vous allez proposer là ce samedi à Caussade, c'est Pierre-Paul Riquet, la gabelle du sel et la genèse du canal du Midi. En fait, le vrai sujet de votre intérêt, c'est ce monsieur, c'est Pierre-Paul Riquet. Comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez rencontré?
Eh bien, bon, il existe des ouvrages antérieurs aux miens, hein, même une grande quantité. Mais ces ouvrages traitaient très peu de ce qu'il avait fait avant de s'intéresser au canal. On racontait beaucoup de choses sur la manière dont il avait mené l'opération Canal du Midi, mais on ne savait pas grand-chose qu'il avait fait avant. Alors ça m'a intrigué. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser de près au Canal du Midi et à Riquet, j'ai cherché d'abord à savoir ce qu'il avait fait. Et j'ai un peu exploré ce qu'on pouvait trouver, par exemple, dans les minutiers des notaires. Et puis, il y avait eu une découverte quelques années avant que je m'y intéresse, là, comme quoi il avait travaillé à la Gabelle à Mirepoix. Donc, bien avant qu'il s'intéresse au canal. Et donc là, on a pu découvrir à peu près ce qu'il avait fait, quelle trajectoire il avait eue dans sa carrière, les opérations qu'il avait lancées, et notamment, à partir d'un certain moment, il avait pris en charge de manière très dynamique ce qu'on appelait la voiture du sel, c'est-à-dire le transport du sel depuis les entrepôts de Narbonne jusqu'aux différents greniers à sel du Haut-Languedoc, c'est-à-dire Toulouse, Albi, Mirepoix, Carcassonne. Et il a organisé ça très, très bien, quoi. Hein. Finalement, on peut penser que c'est essentiellement sur la manière dont il a géré le commerce du sel et surtout le charroi, hein, le transport du sel des producteurs aux consommateurs, sur lequel il a construit sa fortune. Parce que lorsqu'il écrit à Colbert, il a déjà une bonne aisance financière. Je pense que si Colbert lui a fait confiance, c'est parce que derrière, il y avait une certaine richesse. Donc, il pouvait s'appuyer dessus.
Il a investi sa fortune dans la construction du canal ?
Mais il a été quasiment obligé, quoi, parce que, bon, il y a eu des contrats, hein, pour effectuer les travaux. Et donc, d'une part le roi, d'autre part les États de Languedoc, c'est-à-dire la province, s'engageaient à fournir certaines sommes de manière régulière, selon un calendrier. Mais ni le roi ni la province n'ont fourni l'argent dans les délais. Ça a toujours été avec du retard. Et si Riquet voulait que le travail avance, c'était à lui, enfin, il fallait qu'il avance l'argent. Et ça a toujours été de cette manière-là. Ce qui fait que finalement, Riquet a investi d'une part dans le canal, mais a été obligé de fournir les suppléments que le roi n'avait pas fournis.
Il a eu retour sur investissement ?
Alors, il a eu un retour sur investissement plus tard. Enfin, ce sont ses enfants,
ouais.
ses deux fils.
Il n'a pas vu la fin, je crois, des travaux, lui.
Et non, il est mort 8 mois avant l'inauguration officielle sur toute la longueur. Il est mort le 1er octobre 1680. Et on a inauguré le canal en mai 81. Mais c'est pas parce qu'on l'inaugurait que le canal était achevé. Bon, il a fallu attendre 83 pour que le trafic marchand s'y établisse. Il restait encore pas mal de travail à faire après l'inauguration. Mais Colbert était pressé. Colbert aiguillonnait sans cesse Riquet pour que le travail avance, même s'il était bien conscient qu'il n'avait pas fourni l'argent qu'il avait promis.
Le titre de votre livre, encore une fois, Pierre-Paul Riquet, L'audace oui. et la ténacité. Pour le coup, on comprend bien l'origine de ce titre. Et la conférence que vous allez proposer samedi à Cossette est toujours autour de ce même personnage, donc Pierre-Paul Riquet, autour de la gabelle du sel jusqu'à la genèse du canal du Midi. Il en était l'architecte, l'instigateur, l'initiateur, alors que vraiment, passer de la gabelle du sel jusqu'à la construction d'un des plus grands chantiers...
Ah oui, avec, avec Versailles, c'était le plus gros chantier du règne de Louis XIV.
Et bien, pour en savoir plus et voir les illustrations que vous allez proposer, l'illustration d'archives, ce sera pour la conférence donc, de ce samedi. Ce sera à 16h30 au Récollet, à Caussade. Une conférence proposée dans le cadre du cycle initié par l'Université populaire de Caussade. C'est tous les mois. Le mois d'avant, c'était autour du langage. En décembre, ce sera autour du tramway à vapeur. Mais là, donc, c'est avec Pierre-Paul Riquet qu'on vous propose de passer l'après-midi de ce samedi. Et avec vous, Gérard Crevon, je rappelle que vous êtes passionné d'histoire donc, et auteur de ce livre, Pierre-Paul Riquet, l'audace et la ténacité. Cité qui est paru aux éditions Vérone l'année dernière, en 2024. Merci beaucoup à vous et à samedi.
Avec plaisir et à bientôt.
Et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera rediffusé à 18h et à 21h et que vous pouvez aussi réentendre en podcast sur le site cfmradio.fr. Juste après les infos, pour maintenant, la suite ce sera depuis CFM Montauban, le mag avec Rémi Toro.